VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui édition du lundi 24 avril 2017 en direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Anne Albertson pour commencer les titres.
Visite à Djibouti du chef du Pentagone, Jim Mattis.
En Somalie, 6 soldats ont été tués et 8 autres blessés dans l'explosion d'une bombe hier à Bosaso.
En Afrique du Sud, le vice-président Cyril Ramaphosa veut une commission d'enquête sur les allégations de corruption au sommet de l'État.
En France, Emmanuel Macron et Marine Le Pen s'affronteront le 7 mai prochain au second tour de la présidentielle.
La situation au Mali est notre plus grande inquiétude, a déclaré le ministre nigérien de l'Intérieur, Mohamed Bazoum, dans une interview à Nicolas Pineau, l'envoyé spécial de VOA Afrique au Niger.
Ce sera en seconde partie et ne manquez pas non plus notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal.
Le secrétaire américain à la Défense, Jim Mattis, s'est rendu à Djibouti, petite nation de la Corne de l'Afrique, qui abrite la seule base militaire des États-Unis sur le continent et qui disposera bientôt également d'une base militaire chinoise. Cette escale s'inscrivait dans le cadre d'une tournée du chef du Pentagone dans la région et au Moyen-Orient. Jean-Roger Bion nous en dit plus.
Le général Mattis a parlé de Djibouti comme d'un carrefour géographique important. Des dizaines de navires commerciaux et militaires parcourent chaque jour la voie d'eau stratégique. Le port de Djibouti dans le détroit de Bab el-Mandeb est utilisé par les marines américaines et françaises et environ 10 autres nations selon un responsable américain. En plus de sa rencontre avec les soldats français et américains au camp Le Mounier dimanche, le secrétaire à la défense s'est entretenu avec son homologue djiboutien et le président Ismaël Omar Guelleh. La base est essentielle pour les exercices et les opérations des États-Unis sur le continent et les forces spéciales américaines l'utilisent pour mener des opérations antiterroristes contre Al-Shabaab en Somalie voisine. Les États-Unis auront prochainement un autre voisin militaire à Djibouti lorsque la Chine achèvera la construction de sa première base militaire à l'étranger. Jim Mattis, sans mentionner la Chine, a exhorté les pays nouveaux dans la région à se conformer au droit international.
En Somalie voisine, un véhicule militaire a été visé par une bombe en bordure de route hier dans la région semi-autonome du Puntland, tuant 6 soldats et en blessant 8 autres, dont 2 grièvement. C'est ce qu'a déclaré un représentant de l'armée. Les milices islamistes d'Al-Shabaab ont revendiqué l'attaque qui s'est produite dans les faubourgs de la ville portuaire de Bosaso.
Le vice-président sud-africain Cyril Ramaphosa a réclamé dimanche la mise en place d'une commission d'enquête sur les allégations de corruption au sommet de l'État. Des précisions avec Rosine Munezero.
Alors que Cyril Ramaphosa rendait hommage à Chris Hani, une icône du mouvement anti-apartheid assassiné en 1993, il a déclaré hier « Nous devons être honnêtes et assez courageux pour affronter la corruption au sommet de l'État ». Son appel en faveur de la création d'une commission d'enquête sur la corruption intervient 5 mois après une recommandation similaire de l'ex-médiatrice de la République, Tuli Madonsela. Elle avait notamment souligné l'apparence de collusion entre le président Jacob Zuma et une richissime famille d'hommes d'affaires, les Guta. Son rapport explosif n'a pas eu de suivi. Le vice-président Ramaphosa, qui aspire à diriger le Congrès national africain et éventuellement l'Afrique du Sud, affirme que faute de solution à ces problèmes, le soutien électoral du parti au pouvoir va continuer à diminuer. Jacob Zuma, embourbé dans plusieurs scandales de corruption, est perçu comme le principal coupable des récents déboires politiques du parti de Nelson Mandela. L'ANC, au pouvoir depuis la fin de l'apartheid en 1994, a subi un fort recul lors des élections municipales d'août 2016.
Le paludisme a tué l'an dernier 4000 personnes, dont 3000 enfants au Burkina Faso, et est la première cause de consultation, d'hospitalisation et de décès. Le Programme national de lutte contre le paludisme a enregistré environ 9,8 millions de cas de paludisme. C'est ce qu'a indiqué le coordonnateur du PNLP, le docteur Yakubo Sawadao, en prélude à la journée mondiale contre le paludisme le 25 avril.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Présidentielle en France, Emmanuel Macron et Marine Le Pen s'affronteront le 7 mai prochain au second tour. Le candidat centriste est arrivé en tête du scrutin hier avec un peu plus de 24% des suffrages, 3 points devant la chef du Front national d'extrême droite. Les sondages sont très favorables à Macron, Gaby Dorsil.
Oui, les sondages donnent Emmanuel Macron largement gagnant au second tour de la présidentielle. Pour l'Institut Ipsos, le candidat du mouvement En Marche recueillerait 62%, alors que l'Institut Harris Interactive prédit un écart encore plus important avec 64% des voix pour Emmanuel Macron. Cela est dû notamment au soutien promis aux jeunes candidats centristes tout de suite après l'annonce des résultats du premier tour. Voici par exemple comment François Fillon, le candidat de la droite arrivé en quatrième position, explique son appel à voter contre Marine Le Pen le 7 mai prochain.
Il nous faut choisir ce qu'il y a de préférable pour notre pays. Je ne le fais pas de gaieté de cœur, mais l'abstention n'est pas dans mes gènes, surtout lorsqu'un parti extrémiste s'approche du pouvoir. Il n'y a pas d'autre choix que de voter contre l'extrême droite. Je voterai donc en faveur d'Emmanuel Macron.
Le succès aux urnes d'Emmanuel Macron a été salué à travers l'Europe, tandis que la présence du Front national au second tour est qualifiée de menace. L'investiture du nouveau président devrait avoir lieu au plus tard le 14 mai, date d'expiration du mandat de François Hollande.
Des centaines de personnes ont manifesté hier à Istanbul contre la victoire proclamée du oui au référendum du 16 avril sur le renforcement des pouvoirs du président turc Recep Tayyip Erdogan. Le référendum sur cette réforme constitutionnelle s'est soldé par une victoire plus maigre que prévue pour M. Erdogan, avec l'approbation de 51,41% des votants. Les opposants affirment que le résultat aurait dû être inverse dans un scrutin équitable.
Le président chinois Xi Jinping a appelé à la retenue vis-à-vis de la Corée du Nord lors d'un appel téléphonique avec son homologue américain Donald Trump quelques jours avant l'arrivée prévue d'un porte-avions de l'US Navy au large de la péninsule coréenne. La Chine espère que toutes les parties fassent preuve de retenue et s'abstiennent de toute action de nature à aviver les tensions dans la péninsule, a déclaré M. Xi, selon la télévision publique CCTV.
La Corée du Nord a détenu pour sa part un autre citoyen américain, un professeur d'une cinquantaine d'années qui enseigne la comptabilité dans le pays pour donner des cours et discuter des opérations de secours. Selon l'agence sud-coréenne Yonhap, Tom Kim ou Kim Sang-duk, son nom coréen, a été arrêté vendredi à l'aéroport international de Pyongyang. Les États-Unis, qui n'ont pas de relations diplomatiques avec la Corée du Nord, travaillent avec l'ambassade suisse à Pyongyang pour obtenir sa libération.
Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a fait savoir hier que l'action de Moscou dans l'est de l'Ukraine demeure un obstacle à une amélioration des relations entre les États-Unis et la Russie. C'était lors d'une conversation téléphonique avec le président ukrainien Petro Poroshenko et après la mort d'un observateur américain de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe dans l'est de l'Ukraine. Messieurs Tillerson et Poroshenko ont souligné, selon le porte-parole Mark Toner, la nécessité de, pour toutes les parties et en particulier les forces séparatistes dirigées par la Russie, de mettre en œuvre immédiatement leurs engagements dans le cadre des accords de Minsk pour la paix.
Le président Donald Trump a fait un nouvel effort hier pour le financement du mur qu'il a promis lors de sa campagne de construire à la frontière avec le Mexique pour juguler l'immigration illégale. Cette question était au centre des discussions entre la Maison-Blanche et les parlementaires américains pour éviter une fermeture partielle du gouvernement à la fin de la semaine. Le gouvernement va manquer de fonds vendredi à minuit.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Claire Morin-Gibourg.
Le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé, a lancé vendredi dernier les travaux de construction de 2 ponts sur les rivières Kara et Koumangou, à 500 km au nord de Lomé. Les travaux seront réalisés grâce à un financement conjoint de 16 milliards de francs CFA de l'État togolais et de l'Agence japonaise de coopération internationale, l'AJICA. Les ponts sont, pour le gouvernement togolais, d'une importance stratégique pour le désenclavement des localités avoisinantes, le développement national et l'intégration régionale. En Afrique de l'Ouest, le secteur du coton textile tourne à deux vitesses. D'un côté, la production a connu depuis 2010 une forte progression. La campagne 2016-2017 s'est achevée fin mars sur des niveaux records au Burkina Faso, plus 25%, et au Mali, plus 26%, ces deux pays étant les premiers producteurs de la région et du continent. Mais comme Jeune Afrique le précise, le taux de transformation s'est lui dégradé. La région ne compte plus que 10 usines contre 45 il y a 15 ans. En Côte d'Ivoire, le Trésor public a proposé vendredi des bons et obligations du Trésor qu'ils ont qualifiés de placements sains, notamment celles de Korogo, dans l'extrême nord du pays, qui ont des taux d'intérêt très rémunérateurs.
À présent, les sports avec Élisée Ongpatine. Bonjour.
Bonjour Idrissa.
En football, éliminatoire du CHAN 2018, dans la zone sud, les matchs allés du tour préliminaire se sont joués le week-end.
Oui, et c'est assez serré, on peut le dire. Certaines sélections ont pris une petite option. Par exemple, Madagascar, vainqueur 1-0 du Malawi. Le Soudan du Sud s'impose 2-1 devant la Somalie. Même score pour l'île Maurice à domicile face aux Seychelles. Les matchs retour sont prévus en fin de semaine.
Le dernier qualifié pour la phase de poule de la Coupe de la Confédération est connu.
Il s'agit du club nigérian de Rivers United. Vainqueur à l'aller 2-0, les Nigériens ont assuré leur qualification face à l'équipe rwandaise de Rayon Sport au match retour après avoir fait match nul 0-0. Le tirage au sort de la phase de poule des deux compétitions africaines des clubs aura lieu au Caire ce mercredi.
On fait maintenant le point de quelques championnats africains.
Oui, et sixième journée des playoffs en Tunisie. Le leader, l'Espérance sportive de Tunis, s'est facilement imposé face à l'Étoile sportive de Metlaoui 3-0. L'Étoile sportive du Sahel, second classement, a arraché la victoire sur la pelouse de l'Union sportive de Ben Gaïdan. Ce succès permet au tenant du titre de rester à un point de l'Espérance. Playoff également à RD Congo, cinquième journée. Le match AS Vieux Club FC Renaissance n'est pas allé à son terme pour cause d'intempéries. Score après 72 minutes, un but partout. A noter que la rencontre Sanga Balende TP Mazembe, comptant pour la troisième journée, n'a également pas eu lieu pour la même raison. Au Cameroun, onzième journée de la Ligue 1, le leader Stade Renard de Melong a consolidé son fauteuil en dominant Lyon blessé 1-0 grâce à Baba Basile. Son dauphin, l'Union des mouvements sportifs de Lune, a bien suivi le rythme en écrasant Colombe de Dja et Lobo 3-0. En Guinée, fin de la phase aller du championnat et le Oroya termine en tête. Le club de Matam a battu Renaissance FC 3-0 en match de la 12e journée. Le champion en titre compte 35 points avec 8 points d'avance sur Wakria, classé 2e. Et puis au Sénégal, le leader Génération Foot a été accroché un but partout à domicile par Diemba à l'issue de la 19e journée. Génération Foot, avec ce nul, reste leader avec 38 points, loin devant Niari Tali, battu par Mbou, petite côte 3-1.
Du foot toujours, Élisée, mais en Europe, et le FC Barcelone s'offre le classico.
Oui, Idrissa, il s'est totalement relancé dans la course au titre en battant le Real Madrid 3-2 à Santiago Bernabéu à l'occasion de la 33e journée de la Liga. Conséquence au classement, le Barça prend la tête grâce à une meilleure différence de but que l'équipe de Zinedine Zidane qui a toujours son destin à main avec un match en retard.
Basketball à présent et c'est officiel, l'Angola va organiser l'Afrobasket 2017 du 19 au 30 août prochain.
Oui, l'Angola qui remplace au pied levé le Congo-Brazzaville. Les Congolais ont désisté à 4 mois de l'événement pour des raisons financières. Décision lourde de conséquences pour la sélection nationale congolaise exclue de la compétition. Reste à lui trouver un remplaçant. Plusieurs candidats, l'Algérie, le Tchad et la Centrafrique, sont intéressés. Un mini-tournoi de qualification devait être organisé pour attribuer le précieux sésame. Et puis la NBA, le championnat nord-américain de basketball. Les playoffs se poursuivent. Et avec vous, Idrissa, les résultats de la nuit.
Conférence Est à Chicago. Boston bat Chicago 104-95. Boston et Chicago à égalité, 2 victoires partout. À Indianapolis, Cleveland bat Indiana 106-102. Cleveland a 4 victoires à 0 et est qualifié pour le deuxième tour. Conférence Ouest à Oklahoma City, Houston bat Oklahoma City 113 à 109. Houston mène 3-1. À Salt Lake City, Utah bat LA Clippers 105 à 98. Utah et LA Clippers à égalité, 2 victoires partout.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. La situation au Mali est notre plus grande inquiétude, selon le ministre nigérien de l'Intérieur. Dans un entretien accordé à VOA Afrique à Niamey, Mohamed Bazoum revient sur la situation dangereuse le long de la frontière entre le Niger et le Mali. Au micro de Nicolas Pino, l'envoyé spécial de VOA Afrique au Niger, M. Bazoum affirme aussi que le combat contre Boko Haram est pratiquement gagné.
Le combat est pratiquement gagné. Nous avons eu beaucoup de succès. L'ennemi a été affaibli. Il l'a été au Nigeria déjà. Il l'est au Cameroun, il l'est aussi au Niger. Au Tchad, ça fait déjà très longtemps. Il reste évidemment quelques capacités résiduelles de nuisance de la part de cette organisation, mais rien de l'ordre de ce qu'ils avaient pu faire il y a de cela quelques années. Rien non plus de nature à remettre en cause la stabilité des pays voisins du Nigeria. Sur l'état de Borno, à l'intérieur du Nigeria, par endroits, certainement qu'ils conservent encore quelques capacités, mais elles ne sont pas particulièrement importantes.
Les îles du lac Tchad, c'est vraiment le dernier retranchement des leaders de Boko Haram.
C'est ça. Il y a une opération qui doit être menée là-bas pour nettoyer ces îles. C'est un peu leur sanctuaire aujourd'hui. C'est normal. C'est un no man's land situé entre tous les États en même temps. C'est difficile de contrôle. Vous n'avez pas de forces qui peuvent y être basées de façon fixe. Pour le moment, ça offre le meilleur espace pour eux à la fin, à mon avis, de leur existence.
Est-ce qu'aujourd'hui, l'autre inquiétude, ce n'est pas finalement la frontière avec le Mali?
Nous avons le Mali qui est une grosse menace susceptible de remettre tout en cause parce que la différence entre Boko Haram et le Mali, c'est que Niamey, notre capitale, est à 200 km de la frontière malienne. Là, le front est beaucoup plus vif, les menaces sont plus prégnantes, et les risques sont plus grands. La situation ne s'améliore pas, au contraire. C'est pas seulement notre frontière, malheureusement, c'est que c'est le centre du Mali, même la région de Mopti, où la situation s'est le plus dégradée. C'est une zone où vous n'avez pas l'aménagement, mais de façon générale, je pense que l'aménagement n'a pas été un modèle d'efficacité. C'est une opération de maintien de la paix. Or, nous ne sommes plus au Mali en situation de paix, malgré l'accord d'Alger. Et la zone entre Menaka et notre frontière à nous est truffée de terroristes qui ont quelques sanctuaires de ci, de là.
Question de, évidemment, politique intérieure concernant les manifestations réprimées. Y a-t-il eu usage excessif de la force de la part des forces nigériennes?
Oui, à mon avis, je pense que nous n'avons pas bien mesuré ce qui se passait. Nous aurions pu contenir cette manifestation autrement. C'est pourquoi nous avons révisé du tout au tout. Tout ce qui a été fait le 10, la cité universitaire a été fermée, le président de la République l'a rouverte, et il a demandé aux étudiants de revenir. Nous avons libéré les étudiants qui ont été arrêtés. Et nous avons donné beaucoup de gages aux étudiants parce que tout simplement, nous n'étions pas préparés à assumer les conséquences de cette action qui, de mon point de vue, n'avait pas été une action particulièrement intelligente.
Le ministre nigérien de l'Intérieur, Mohamed Bazoum.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24 heures sur 24.
Au Tchad, les 3 activistes des droits de l'homme arrêtés par l'ANS, l'Agence nationale de sécurité, croupissent depuis plusieurs mois dans les geôles secrètes du pays. et leurs familles se disent très inquiètes de leurs conditions de détention. De N'Djamena, André Kotmadjingar fait le point.
Bien que les ONG nationales et internationales des droits de l'homme aient exigé unanimement la libération immédiate de ces prévenus, Nadio Kaina totalise 19 jours, Dingamnael Nili Versinis 14 jours et Bertrand Solongandje, lui, passe sa 11e nuit au violon secret ce lundi 24 avril sans être présenté à la police judiciaire ni à un juge. Alors qu'en matière d'enquête, le texte précise que le délai de garde à vue ne doit pas dépasser 72 heures. Leurs familles respectives et leurs avocats ne savent même pas là où ils sont détenus. Et le grand frère de Dingamnael, Nili Versinis.
Nous avons mené beaucoup de démarches pour avoir un peu d'informations sur ses conditions de détention et du lieu où il a été détenu. Mais toutes les démarches que nous avons menées n'ont pas abouti. Nous ne savons pas son état de santé à l'heure actuelle. La famille est sincèrement inquiète parce que nous savons ce qui se passe dans les geôles de l'ANS et nous ne savons pas principalement qu'est-ce qu'on lui reproche.
Bongo Dominique Yamtaba, oncle maternel de Bertrand Solongandje, affirme également que depuis que son neveu est arrêté, aucun membre de la famille n'a eu de contact avec lui.
Bertrand a été enlevé, conduit à un poste de police. Il est quand même aberrant pour nous qu'un citoyen puisse être dans les locaux de la police et qu'ils disparaissent. Alors, ce qui nous conduit maintenant à exiger sa libération sans condition. Si jamais il arrive quelque chose à Bertrand, nous tenons pour responsables les autorités puisqu'il est parti des locaux de la police. Et Bertrand a une santé fragile et depuis qu'il a disparu, nous n'avons ni accès à lui, il n'a jamais eu accès à un avocat pour pouvoir aussi plaider son sort par rapport à sa situation sanitaire.
Selon des sources indépendantes, ces trois activistes sont détenus dans les geôles secrètes de l'ANS, une structure de contre-espionnage qui a pour mission de défendre les intérêts nationaux et vitaux si ceux-ci sont menacés à ses frontières. Mais au sortir de l'élection présidentielle d'avril 2016, contestée par une partie des organisations de la société civile et des partis politiques de l'opposition démocratique, le président Déby a dans un décret numéro 69 du 20 février dernier élargi le pouvoir de ce service, celui d'arrêter et de détenir des personnes présumées suspectes pour nécessité d'enquête. André Kotmadjingar N'Djamena pour VO Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h sur 24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Incertitude à Kananga, au Kasaï oriental, malgré la restitution du corps du chef Kamuina Sapu par le gouvernement et la désignation du nouveau chef. Ces deux derniers développements ne semblent pas devoir briser le cycle de la violence entre miliciens et militaires FARDC. La société civile et la population s'inquiètent de cette situation, nous dit notre correspondant Narval Mabila.
Kananga, Kasaï central, c'est l'horreur absolue depuis plusieurs mois. Tout n'est pas clair jusqu'à ce jour malgré la restitution par le gouvernement central du corps du grand chef Kamuina Sapu à sa famille ainsi que l'entronisation de son remplaçant. Là, nous sommes dans la commune de Kananga où la peur et la violence est devenue un mode de vie. C'est de là que nous avons joint Madame Nathalie Kambala de la société civile qui tente de nous expliquer les contours de la situation incertaine.
On a remis le corps, il paraît qu'on a déjà enterré. On a même dit qu'on va annoncer le jour où les deux seront officiels. C'est vrai, il y avait encore une peur dans la population pour dire que voilà, l'autre qui est en train de venir, est-ce qu'il sera vraiment accepté par la population? Mais c'est passé comme ça. On a senti que la population avait besoin de la paix, que ce soit des mises en scène. Non, nous, la population n'a pas de ça. Nous, on fait confiance à la famille régnante, on fait confiance à l'État qui voulait la paix, surtout que cette paix ici, nous la voulons aussi pour qu'on vive normalement comme les autres amis des autres provinces. On n'a pas besoin d'entendre de coups de balle, évidemment, ça continue malgré que ces événements s'est passé, mais hier, avant-hier, il y a toujours des balles qui ont crépité ça et là. Il y a des petites incompréhensions depuis la naissance de cette incursion. C'est la famille régnante de Kamuina qui avait commencé. Maintenant, c'est tout le territoire du centre kassaïen. Et en dehors de ça, tous les grands kassaïs sont touchés. Mais Atikapala, qu'est-ce qu'il revendique? Est-ce qu'il continue à revendiquer le corps? On ne sait pas. Il y a déjà un autre chef coutumier.
L'attitude et la méfiance est totale des visios au sein de la population de Kananga qui est très fatiguée des atrocités et donne l'espoir à une paix à venir, comme s'exprime Selbert Kyungu, la société civile et citoyen journaliste.
Toutes les voies qui peuvent amener à la paix sont les bienvenues. Et la remise du corps, l'élimination du nouveau chef, dans une certaine mesure, la population salue cette initiative, mais souhaite que ce ne soit pas du mascarade. Le montage est de simple mise en scène. Donc on est lassé, fatigué et essoufflé par cette guerre dont on ne connaît pas très bien les tenants et aboutissants.
À l'Institut de recherche en droit de l'homme, IRDH, basé à Lubumbashi, nous avons joint Maître Tshiswaka qui pense que la solution ne passera que par l'organisation d'une conférence sur les Kassai et l'implication des causes tribunaux.
D'abord, il faudrait qu'ils puissent essayer de faire une approche réparatrice en faveur des victimes et des parents des victimes. Non seulement attendre la procédure judiciaire, il faudrait qu'on puisse avoir une conférence autour de la question Kamunansapu pour qu'on résolve les problèmes avec la population locale et les notables politiques. À défaut, nous pouvons avoir d'autres réactions dans d'autres provinces.
Entre-temps, à Kananga et ses environs, c'est l'incertitude qui continue. La peur et la désolation pourchassent les paisibles citoyens où chaque jour qui passe, c'est une éternité de violence. Lubumbashi, Narval Mabila, VO Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
Au Burkina Faso, l'association interprofessionnelle du coton, qui regroupe les cotonculteurs, et les sociétés cotonnières du pays, a tenu une assemblée générale. Parmi les résultats, le prix d'achat du coton aux producteurs va passer de 235 francs CFA à 245 francs CFA pour la campagne 2017-2018. L'association a aussi tiré le bilan de la campagne écoulée, marquée par l'abandon du coton OGM. De Ouagadougou, reportage de notre correspondant Zoumana Wonogo.
En décidant l'abandon du coton OGM pour le retour au conventionnel, ce n'était pas sans appréhension pour les sociétés cotonnières du Faso. Mais, au finish, que retenir? Suivons les chiffres comparatifs avec Georges Yamego, le secrétaire général de l'AICB, Association interprofessionnelle du coton du Burkina.
Superficie coton emblavé, 740 349 hectares, soit une augmentation de 12% par rapport à 2015-2016. Production collectée, 683 000 tonnes de coton graines contre 586 000 tonnes enregistrées la campagne dévancière 2015-2016, soit une augmentation de 16%. Rendement moyen, 922 kg par hectare contre 885 kg par hectare l'année passée, soit un progrès de 4% par rapport à 2015-2016. La marge après remboursement des crédits au niveau des producteurs se situera globalement à 96 milliards de francs CFA cette année contre 84 milliards de francs CFA la campagne écoulée.
Cette bonne performance a poussé les sociétés coutonnières à revoir à la hausse les prix d'achat pour la campagne à venir. On écoute Wilfried Yamego, directeur général de la Sofitex.
Le prix d'achat du coton graine sera de 245 francs le kilogramme pour le premier choix. En ce qui concerne donc les engrais, nous avons maintenu le même niveau de prix que ceux de la campagne précédente. Et les insecticides également, nous avons maintenu le même prix. Les comités de crédit que nous avons tenus indiquent déjà, sans cette annonce, des niveaux de production qui tourne autour de 820 000 tonnes pour la prochaine campagne.
Comment les producteurs de coton ont accueilli cette hausse du prix d'achat?
Koulibaly Bouramani, producteur de Bondokoui, on est content. Comme il a ajouté les 10 francs là, et puis il n'a pas ajouté les intrants là, c'est le même prix là, comme l'année passée, je crois que c'est bon.
Yakoro Bazi Hervé, producteur à Dara.
La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont dit qu'ils ont augmenté le prix du coton à 245 francs. C'est juste, mais c'est pas arrivé chez les producteurs. Les 10 francs là, c'est bon, mais chaque année, on voulait qu'on donne 10 francs aussi pour achat complémentaire.
L'abandon du coton OGM avait donné lieu à un litige entre les sociétés cotonnières et la firme Monsanto. Où en est-on avec ce dossier? Suivant les explications de Ali Compaoré, le directeur général de la Sokouma.
Au départ, nous avions une prétention de 48 milliards de francs CFA. Malheureusement, à l'arrivée, nous avons dû conclure sur un montant qui est nettement inférieur et qui est de l'ordre de 11 milliards 300 millions de francs CFA. Donc c'est ce montant-là versé par la partie Monsanto qui permet aujourd'hui donc de clore définitivement ce dossier et de nous permettre également de prospecter d'autres pistes en matière donc de biotechnologie.
Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur.
les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Butson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.